L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournales. Au sommaire, les représentants de la RDC et de l'AFC M23 ont signé un protocole établissant un mécanisme de vérification de cessez-le-feu ce mardi 14 octobre 2025. Cette avancée majeure s'inscrit dans le cadre de la déclaration de principe en vue d'un accord de paix global avec la médiation de l'État du Qatar. On en parle dans cette édition du journal. Au sommaire également, les documents de voyage émis par l'AFC M23 ne sont reconnus ni dans les zones sous contrôle du gouvernement. En plus de passer des longues heures à la frontière pour s'expliquer, les voyageurs sont contraints de payer deux fois les titres des transports nécessaires à leur déplacement. Dossier complet à suivre également dans ces radiojournaux. L'actualité sportive va mettre fin à cette édition du journal mise en onde par Barton Boussimo. Au microphone pour la présentation, je suis Omar Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Et vous l'avez suivi au sommaire de ces radiojournaux, le représentant de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFC M23 viennent de convenir sur la formation d'un mécanisme de surveillance pour le suivi du cessez-le-feu permanent et la vérification concernant sa mise en œuvre. Hélène Boudjiriri pour les détails.
Cette signature intervient dans le cadre de l'application des dispositions de la déclaration des principes entre les deux parties à l'appui d'une voie vers un accord de paix globale facilité par l'État du Qatar, signé à Doha le 19 juillet 2020. La mission de ce mécanisme est d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre du cessez-le-feu permanent, y compris l'enquête et la vérification de toutes violations présumées, ainsi que de prendre les mesures nécessaires avec les parties concernées pour éviter les violations. Pour poursuivre cette mission, les parties veillent à ce que le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL bénéficie d'un accès sûr et sans entrave de deux côtés de la ligne de front, afin de faciliter leur participation effective à la surveillance du cessez-le-feu permanent sur les terrains. Il sera aussi question d'enquêter et vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux rapports faisant état des violations présumées du cessez-le-feu permanent, mais aussi documenter les rapports faisant état des violations présumées et fournir des bulletins hebdomadaires au mécanisme. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu est composé d'un nombre égal des représentants du gouvernement de la RDC et de l'AFC M23, ceux de l'Union africaine, de l'État du Qatar et des États-Unis qui peuvent servir en tant qu'observateurs de la CIRGL ainsi que de la MONUSCO, lit-on dans ces documents. Précisons que ce mécanisme tiendra sa première réunion dès que possible et au plus tard 7 jours après sa constitution. Pour les comptes de la RDC, c'est M. Sumbu Sitamambo qui signe, alors que pour les comptes de l'AFC M23, le signataire est René Abandi. Cette signature est intervenue mardi 14 octobre 2025, quelques jours seulement après le 6e round des négociations entre le gouvernement de la RDC et de l'AFC M23 sous l'égide du Qatar.
Entre-temps, de nouveaux mouvements de population sont rapportés dans plusieurs villages du territoire de Kalehe depuis près de 2 jours. Ceci fait suite à des combats qui ont éclaté entre les combattants de l'AFC M23 et des factions Wazalendo conduites par des généraux autoproclamés Kiriki Tchouébaïgué. Des sources de la société civile à Kalehe ont dit que plus de 5000 ménages originaires des villages Ramba, Bouchakou, Katasomwa, Boulanga, Lemera et même Bouyakiri se retrouvent en état de déplacement en séjour dans des entités plus ou moins sécurisées comme Machofi, Luzira, Kacheke et une partie de Bouchakou. Hommes, femmes, enfants et vieillards ont été à nouveau obligés de fuir leur ménage, nombreux d'entre eux obligés de tout abandonner. Le rapport est un renforcement impressionnant des troupes de l'AFC M23 dans la zone, principalement vers Bouchakou, un village du territoire de Kalehe, alors que des éléments de ces factions Wazalendo auraient demandé aux populations de se mettre à l'abri car des affrontements pourraient éclater. Et je vous prends expédit Kialou, disons qu'aucune paix extérieure manière ne sera durable sans la décrispation politique en interne en République démocratique du Congo. C'est ce que font savoir les doyens de la société civile du Sud-Kivu dans une note de plaidoyer adressée au président de la RDC Félix Tshisekedi quelques jours après sa main tendue au président du Rwanda Paul Kagame au forum global Gateway organisé à Bruxelles.
Les signataires saluent cette posture tendant à ramener la RDC sur le chemin de la paix. Malgré certaines incohérences contenues dans la démarche, toute initiative qui pourrait contribuer à mettre fin aux souffrances de la population et à préserver la souveraineté de la RDC mérite le soutien, indiquent les doyens de la société civile. Cependant, disent-ils, la décrispation politique en interne permettrait de rassembler toutes les forces vives de la nation dans le but d'affirmer la souveraineté et tracer les voies de l'avenir commun des Congolais. De ce fait, les doyens de la société civile du Sud Kivu invitent le président de la RDC à faire preuve du même courage, manifesté devant Kagame pour tendre la main à cet adversaire politique en organisant un dialogue national. On ne fait la paix qu'avec son ennemi, ajoute cette structure qui insiste sur la participation dans ce dialogue de l'opposition armée et non armée. Concentrons-nous d'abord à régler nos problèmes internes. Unis, nous serons plus forts pour affronter les agresseurs extérieurs, écrivent les doyens de la société civile qui proposent leur diplomatie citoyenne pour assurer les bons offices. Avoir ouvert une fenêtre d'opportunité extérieure en s'adressant directement au président Kagame oblige d'initier une démarche similaire vers toute l'opposition et les forces vives nationales, concluent les signataires de cette correspondance.
Et pendant ces temps, une partie de l'opposition congolaise a entamé mardi 14 octobre un conclave de deux jours à Nairobi au Kenya. L'initiative est de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs opposants, en majorité des exilés, ont répondu présents à cette réunion, la plupart étant des proches collaborateurs de Kabila dans le FCC. On note notamment la présence de José Makila, Raymond Tshibanda, Moïse Nyarugabo, Nehemi Mwilanya, Frank Diongo. L'ancien premier ministre Matata Mponyo, condamné récemment par la justice congolaise, refait également surface. Ses opposants vont travailler durant des jours autour de Joseph Kabila. Ces rassemblements connaissent pendant l'absence d'autres ténors de l'opposition, dont Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delis Essanga et Jean-Marc Kabund. Si pour l'instant, les directives adoptées par l'opposition ne sont pas encore dévoilées, il faut souligner que cette réunion intervient dans un contexte de crise sécuritaire profonde que traverse le pays. L'opposition ne cesse de réclamer un dialogue inclusif sous la médiation des confessions religieuses, une démarche que Félix Tshisekedi n'a pour l'instant pas activée. Et ici, dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu précisément, disons que la ville continue d'être secouée par une recrudescence des cas d'insécurité. Des attaques armées et des vols à main armée sont régulièrement signalés dans plusieurs quartiers de la ville. Le dernier cas en date s'est produit dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025, aux environs de 22h, sur avenue Wesha dans le quartier Nkafu, en commune de Kadutu. Mira Mufano pour les détails.
Des hommes armés ont fait irruption au domicile de Raphaël Bigaba. Selon les témoignages recueillis sur place, les assaillants seraient venus chercher ses chefs de ménage, mais ne l'ayant pas trouvé, ils ont ouvert le feu sur son épouse, du nom de Namwezi Marie Gane, âgée de 52 ans, qui est décédée sur les champs. La chef adjointe du quartier Nkafu, de Diane Mwati, déplore cette énième attaque armée et appelle les autorités politico-sécuritaires à renforcer les patrouilles nocturnes afin de protéger la population. Elle invite également les habitants à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant toute personne suspecte ou détentrice d'objets militaires. Didienne Mwati est dans cet élément.
Nous déplorons ce cas de vol à main armée qui est devenu monnaie courante dans les quartiers Nkafu. Mais aussi nous demandons aux autorités politico-militaires de multiplier les patrouilles nocturnes dans les quartiers Nkafu. Mais aussi il faut que les enquêtes soient menées afin que ces malfrats soient dénichés. Mais aussi à la population de dénoncer toute personne suspecte. Mais aussi dénoncer toute personne qui détient encore les effets militaires.
Par ailleurs, dans le territoire de Kabare, plus précisément à Moudoussa, des bandits armés ont tenté de cambrioler plusieurs maisons. Les tentatives ayant échoué, ils ont tiré de nombreuses balles en l'air, créant ainsi une vive psychose au sein de la population locale. La société civile locale appelle à une réaction urgente des autorités compétentes pour mettre fin à cette insécurité grandissante.
Merci à vous, Myriam Moufano. Mesdames et messieurs, en cours des diffusions, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndélo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Suivez Radio Maïndélo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndélo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndélo. Radio Maïndélo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal, comme d'ailleurs annoncé au sommaire, autant les documents de voyage émis par l'AFC M23 ne sont pas reconnus dans les zones sous contrôle gouvernemental, autant ils ne les sont pas dans les milieux sous administration de la Révolution. Le principe de réciprocité est appliqué sur terrain, ce qui perturbe la tranquillité des voyageurs au moment de la traversée des frontières. Expédie Kalou.
En plus de passer des heures à la frontière pour s'expliquer, les voyageurs sont contraints d'acheter doublement le titre avec lequel ils effectuent le déplacement. Plusieurs voyageurs qui ont contacté Radio Mandeléo font savoir qu'actuellement, il n'est pas possible d'atteindre Bujumbura et Uvira avec les documents CPGL ou la ville de Beni en passant par l'Ouganda avec le tenant lieu des passeports livrés par les autorités à Bukavu. Bien qu'ayant pratiquement le même design et les mêmes insignes, ces documents ne sont plus acceptés aux endroits précités au motif d'avoir été délivrés par une administration non reconnue par les autorités de Kinshasa. Un habitant de Bukavu en mission humanitaire à Beni au nord Kivu en passant par l'Ouganda indique avoir été bloqué pendant plusieurs heures à la frontière de Kasindi côté congolais. Sur place, les agents de l'immigration ont saisi son tenant en lieu des passeports délivrés à Bukavu, l'obligeant de commander un autre au même tarif. Le document délivré à Beni a permis à cet humanitaire de se déplacer pour Bujumbura et Uvira. Au retour à Bukavu, le document a été saisi à la frontière Ruzizi Premier, avoue notre source qui regrette d'avoir dépensé autant d'argent pour un titre dont un spécimen a été confisqué côté gouvernemental et un autre du côté de l'AFC M23. Cet humanitaire témoigne ici sous le sceau de l'anonymat.
La fois dernière, j'ai quitté Bukavu, Goma, Beni. Beni, Kampala, Bujumbura, Premièrement, maintenant j'ai des passeports qui utilisent les autorités en place maintenant à Bukavu et à Goma. Le mouvement M23 se s'achète à 45$ et 3000 francs congolais. Et ce document nous a aidé à traverser la frontière grande barrière pour aller à Tchalika, entrer en Ouganda et continuer la route vers Beni à Kasindi. Arriver à la frontière là, parce que quand des amis sont cachés, des sorties pour nous permettre maintenant d'entrer au Congo. Il faut arriver à la frontière des Kasindi. Nous avons été arrêtés par les agents de sécurité qui nous ont posé pas mal de questions. Ils nous ont revu les documents émis par M23. Nous avons passé une nuit là-bas et le lendemain, il fallait continuer la route vers Kampala maintenant. Donc, nous avons été obligés encore d'acheter un tenant de passeport émis par le gouvernement congolais. Ces documents nous ont aidé à aller à Kampala et prendre un vol pour le Burundi. On a fait notre travail là-bas pendant 8 jours et donc il fallait alors quitter où pour rentrer chez Bukavu. Mais arrivant à la frontière, la partie rwandaise a mis des sauts pour sortir du Rwanda. Il fallait alors entrer au Congo. Et c'est là où encore les documents ont été retenus par les agents de la DGM. Disons qu'ils ne reconnaissent pas les documents qui viennent du gouvernement congolais.
Le même traitement est réservé aux voyageurs en cas de déplacement pour Kinshasa avec les compagnies d'aviation. Seuls les documents émis par la Direction Générale de Migration, DGM, dans les zones sous contrôle de Kinshasa, sont acceptés par les compagnies d'aviation qui assurent le trajet allant soit de Bujumbura, Kigali et Kampala vers la capitale de la RDC.
Et dans un autre chapitre, malgré la baisse actuelle du taux d'échange du dollar américain face au franc congolais, annoncé par la Banque Centrale du Congo, les prix des biens et services restent inchangés dans le marché et supermarché de la ville de Bukavu et ses environs. Ce conseil est de Radio Maïndeléo, mardi 14 octobre, après une ronde effectuée dans plusieurs coins de la ville. N'est-ce pas alors, Kabika?
À en croire la dernière mise à jour de la Banque Centrale du Congo du mardi 14 octobre, les dollars s'échangent à 2246,57 francs congolais. Toutefois, sur les terrains à Bukavu et ses environs, il s'est négocié au-dessus de cette barre, soit entre 2300 et 2400 francs chez les cambistes, mais bien plus encore, soit entre 2500 et 2700 francs congolais dans certaines galeries et supermarchés. Dans ces lieux, les commerçants rencontrent également des difficultés à rendre la monnaie, invoquant un manque de petites coupures du dollar et même des billets de francs congolais devenus rares. Face à cette situation, le prix restait le même, notamment pour les denrées alimentaires, les transports et les services. Alors qu'avec un billet de 10 dollars en raison des 28 ou 30 000 francs congolais, il était possible pour une femme de remplir tant soit peu son panier de la ménagère. La dégringolade du dollar américain pousse cette femme à rajouter entre 5 000 et 8 000 francs congolais sur cette opération. Pour Idé Bakoulou, expert en finances publiques, cette position s'explique par la volatilité du marché d'échange et la crainte d'un nouveau recul du franc congolais. Il faudra donc attendre une stabilité durable du taux d'échange avant tout ajustement du prix sur les marchés, estime-t-il. Idé Bakoulou en parle.
La variation de prix n'est pas la même quand il y a hausse du dollar et quand il y a baisse du dollar. Quand il y a baisse, il y a la prudence. La prudence, c'est que en réalité, il n'y a pas de mesures économiques assez visibles devant la population qui peuvent faire que les opérateurs économiques baissent directement les prix. Ils peuvent se dire que c'est une action purement spéculatoire et que le marché va imposer son rythme. Le marché va imposer son rythme, alors on ne baisse pas tout de suite. Mais si la tendance prend du temps, sur le long terme, c'est vrai que les prix pourront s'ajuster. Mais pour l'instant, qui gagne? Parce que, en principe, ceux qui gagnent en francs congolais, eux, ceux qui ont des francs congolais, eux sont carrément avantageux. Ceux qui gagnent en francs congolais vont voir leur pouvoir d'achat plus ou moins s'améliorer. Parce que quand le dollar est à 2800 francs, maintenant que le dollar est à 2400 francs, 2000 francs, celui qui gagne en francs congolais a un peu de marge. Par contre, celui qui gagne en dollars, il perd beaucoup quand le prix reste rigide.
Précisons que c'est depuis le 19 septembre dernier que les francs congolais a connu une appréciation face au dollar américain. Il a augmenté de plus de 9% à en croire les autorités qui y voient les signes des efforts dans la mise en œuvre des politiques monétaires et budgétaires, mais qui créent une controverse dans les chefs des experts.
Et dans le même secteur, les produits de première nécessité se font de plus en plus rares dans le territoire de Mwenga en général et dans la ville de Kamituga en particulier. L'alerte de la société civile au territoire de Mwenga, dans un entretien avec Radio Maindelo, mardi 14 octobre 2025. Cette structure cite à titre d'exemple un litre de carburant qui s'est vendu jadis à 5000 francs congolais à Mwenga Centre, mais qui se négocie aujourd'hui à 7500 francs, pendant qu'à Kamituga, il faut désormais 10 000 francs congolais pour avoir un litre en place des 7 000 francs congolais comme ce fut auparavant. Notre source ajoute que ces mêmes litres de carburant se vendent actuellement à 12 000 francs congolais à Kitutu et à 15 000 francs congolais à Lugushwa. Pour ce qui est d'autres articles, la société civile en territoire de Mwenga déplore de constater qu'ils restent introuvables sur le marché. C'est notamment les riz, les sels et les produits pharmaceutiques, d'où l'appel à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour soulager la souffrance de la population. L'un des acteurs de la société civile dans le territoire de Mwenga en parle.
Un kit de sabots de Golden Key. On a acheté ou vendu à 6 000 francs ici à Mwenga Centre. Aujourd'hui, il est devenu à 8 000 francs, à Kamituga à 10 000 francs, à Kitutu à 12 000 francs et à Lugushwa à 15 000 francs. Des conséquences sanitaires. Vous savez très bien qu'une grande partie de notre territoire, surtout zone de santé de Kitutu et Kamituga, on observe l'épidémie de rougeole et d'autres maladies épidémiologiques. Pour riposter à ces épidémies, il faut qu'il y ait un couloir humanitaire des ONG internationales basées à Bukavu pour intervenir en territoire de Mwenga. Et aussi, libre passage d'approvisionnement de produits pharmaceutiques et autres biens de valeur. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais à crier à haute voix l'ouverture du passage.
Et dans le reste de l'actualité, disons que la population de Luwinja dans le territoire de Mwenga est appelée à rester unie. Elle ne devrait pas se diviser suite aux informations faisant état de la nomination par Kinshasa d'un nouveau chef de chefferie, car la solution sera trouvée d'ici là. Ce message est de Mulenga Bo Mukuba, gardien de coutume, est l'un des membres de la famille du Mwami Mukuba dans la chefferie de Luwinja. À l'en croire, une délégation s'est rendue à Kinshasa pour plaider afin que le Mwami Mukuba Chibwire 5 Toni soit réhabilité dans ses droits et une réponse favorable sera disponible dans le meilleur délai, rassure-t-il. Pour lui, cette situation ne devrait pas semer la haine des uns envers les autres, car elle sera décomptée. Il appelle les habitants de Luwinja au calme et à l'unisson, car avant tout, ils sont frère Mulengabo Mukuba en parle.
Pour le problème que se passe ces derniers temps, avec l'arrêté que nous avons suivi nommant un autre Mwami, alors que nous avons un Mwami légitime, coutumièrement connu, c'est le Mwami Naluinja Mukuba Chibwire 5 Toni. Je voudrais seulement dire à la population d'être calme, d'attendre maintenant les démarches que nous sommes en train de mener, soit ici à Bukavu et à Kinshasa. Et d'ici là, on va remettre le Mwami Naluinja Chibwire 5 Toni dans ses droits. Et puisqu'il y a un arrêté numéro 37 du 26 août portant reconnaissance du chef Mwami Naluinja Mukuba, la population est juste tendue et maintenant on risque d'avoir une guerre civile si leurs tensions ne sont pas apaisées. Donc il faut leur dire d'être calmes.
Et avant de parler sport dans cette édition du journal, disons qu'une importante fuite d'eau a été observée ce mardi 14 octobre 2025 en commune de Kadutu, précisément au lieu dit Yesu-Yesu-2, à l'intersection des deux conduites principales du réseau de la régie des eaux. Selon un ingénieur rencontré sur place, cette rupture de la conduite principale DN400 serait liée à une forte pression hydraulique, un phénomène qu'il estime habituel dans de telles installations. Cette défaillance pourrait affecter l'approvisionnement en eau potable de plusieurs quartiers des communes de Kadutu et d'Ibanda, indique cet ingénieur. Il s'agit des avenues Labotte, Sayo, Maenge, Mukukwe, Mbaki, Manema, Ulinzi, Kibombo et une partie de Mungu dans la commune d'Ibanda et le quartier Kasali en commune de Kadutu, ajoute une source au centre de la régie des eaux. Face à cette situation, la population lance un appel pressant aux équipes techniques pour une intervention rapide tout en exhortant les autorités à élaborer un plan durable de suivi et d'entretien du réseau de distribution.
Nous étions assis ici très tôt le matin. Brusquement, cette conduite d'eau a cédé. Une importante quantité d'eau a fuité avec tous les risques possibles. Un enfant qui s'est rendu à l'école et qui était sur place a failli perdre la vie. Que les autorités compétentes trouvent une solution à ces problèmes.
En réaction, la régie des eaux a dit que les équipes techniques sont mobilisées pour réparer en urgence et rétablir l'approvisionnement dans le plus bref délai, à en croire son directeur Mudumbi Mweze.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maedeleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Et en sport, les éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique ont pris fin hier mardi avec la 10e et dernière journée marquant la fin du parcours qualificatif pour plusieurs nations du continent. Malgré sa victoire face au Soudan, la RDC devra encore attendre avant de valider son billet pour la Coupe du Monde 2026. Les Léopards se sont imposés en 1-0 hier au stade de Martyrs de Kinshasa. L'unique réalisation de la rencontre a été signée Théo Bongonda, bien servi par Mukau à la 30e minute de jeu. Grâce à ses succès, la RDC termine parmi les 4 meilleurs deuxièmes africains et se qualifie aussi pour les matchs des barrages. Ces barrages opposeront les Gabon, le Cameroun, le Nigeria et la RDC. Les gagnants joueront les tournois intercontinentaux des barrages de la FIFA en mars prochain. Enfin, ces barrages se joueront sous forme d'un tournoi à élimination directe sur terrain neutre au Maroc avec les demi-finales prévues le 13 novembre et la finale le 16 novembre prochain.
La revue de presse. Radio Maïdéleu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La destruction de plusieurs écoles lors des pluies qui se sont abattues sur la majeure partie du territoire d'Idju la semaine dernière, la sensibilisation des leaders communautaires du territoire de Walungu sur la lutte contre les violences basées sur les genres et la présence massive des bières étrangères dans la ville de Bukavu font partie des sujets commentés par la presse mardi 14 octobre 2025. Alain Kabika pour la revue de presse.
La presse africaine.net ouvre le bal et annonce que des fortes pluies qui s'abattent sur les territoires d'Idjoui fragilisent les systèmes éducatifs suite à la destruction des écoles dans les deux chefferies du territoire, dont Tambouka et Rubenga. En l'espace de 3 jours, précisent ces médias, 4 écoles détruites et plus de 500 écoliers et élèves directement affectés dans les parcours d'apprentissage. Il s'agit de l'Institut Nyabunyuni 2, dans la chefferie Ntambouka, groupement Mugote, où 4 salles de classe ont été détruites le 9 octobre 2025, précise Gilbert Kinyabuguma, préfet des études au sein de cet établissement scolaire, cité par ces médias. Par manque de moyens, poursuit ces médias, les élèves affectés étudient difficilement sous les rayons solaires exposés aux intempéries. À l'école primaire Kirumba dans les groupements Mugote à la même date, la situation est similaire. 4 salles de classe ont été endommagées par un vent violent. Le responsable de cette école, Maneragura Mukaniwa, souligne qu'avec son effectif de 400 écoliers, certains étudient dans des maisons des voisins et d'autres dans des salles détruites avec risque d'effondrement des murs qui sont déjà fragiles. En date du 9 octobre, poursuit les médias, Immaculée Chibalonza, directrice de l'école primaire EP2 Mukaba, dans les villages Ngula en chefferie Rubenga, note également que son école a été touchée par un ouragan qui a détruit deux salles de classe. L'épée les mères à un, dont les groupements Bougaroula a aussi subi les chocs. La soirée du dimanche au lundi 9 octobre 2025, où plus de quatre salles de classe ont cédé suite aux pluies diluviennes. Les acteurs éducatifs en territoire d'Idjoui appellent au soutien des notables, des députés élus de la circonscription électorale d'Idjoui, des organisations intervenant dans les secteurs éducatifs et des personnes de bonne volonté à intervenir urgemment pour réhabiliter ou construire ces écoles afin de faciliter un bon apprentissage aux élèves. Certains hommes habitants du groupement Moulamba en territoire de Walungu et ses environs font désormais preuve de respect des droits de la femme dans leur entité, annonce dans un autre sujet les souverains libre.info. Ils se sont engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres dans leur ménage. Ces affirmations émanent des sensibilisateurs impliqués dans cette lutte dans les groupements des Moulamba. Selon les souverains libres, c'est à l'issue de la campagne de sensibilisation des leaders communautaires dans cette contrée le week-end dernier au centre commercial de Walungu. Cette campagne de deux jours était organisée par la fondation Panzi dans son projet Uni pour l'égalité du genre. La campagne, selon ces médias, vise à sensibiliser le participant sur la masculinité positive, contraire à la masculinité toxique. Les 40 participants à cette activité, représentant toutes les couches sociales, s'engagent à travailler davantage pour persuader les hommes et les femmes à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre pour l'intérêt de la communauté. Bouclons cette revue de presse avec le site beke.info qui parle de la bière étrangère qui conquit les dépôts, le bar et les hôtels de la ville de Bukavu, redessinant discrètement la carte économique et culturelle de la consommation à l'est de la République démocratique du Congo. Le prix oscille entre 2 et 5 000 francs congolais dans des dépôts et grimpe jusqu'à 8 000 francs congolais dans des boîtes de nuit et les hôtels. Pour les consommateurs, précise beke.info, la diversité des marques et la relative stabilité des prix semblent combler un vide. Ce vide, c'est celui laissé par la fermeture inattendue de la Bralima, autrefois fierté brassicole congolaise, qui a déserté Bukavu sans préavis. Ces flots de bières étrangères à Bukavu symbolisent plus qu'un simple commerce. Ils illustrent la pénétration économique de la communauté de l'Afrique de l'Est dans un marché congolais devenu l'un des plus lucratifs de la région. Plus de 30 conteneurs de 12 000 pieds de bières étrangères déchargés chaque semaine à Bukavu, selon des agents à la frontière cités par ces médias. Ceci témoigne d'une dépendance grandissante, estime ce site internet. L'industrie locale jadis incarnée par la Bralima est aujourd'hui silencieuse, laissant les champs libres aux marques régionales, conclut le site internet beke.info.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal. Plusieurs personnes se confrontent à un problème sérieux d'utilisation de la première langue internationale en traversant les frontières. Aujourd'hui, tous les pays amis de la RDC sont presque des pays anglophones. Que feras-tu comme les Américains seront partout dans le pays en y investissant? Quelle sera ta langue de communication? Les centres de formation BCLS donnent l'occasion à toute personne désireuse d'apprendre l'anglais, le français accompagné d'une formation accélérante en informatique, de venir au complexe scolaire La Pro en Gouba, non loin du feu vert. Pendant cette période de crise, les centres ont réduit sensiblement les prix pour donner l'occasion à tout le monde d'y accéder. L'usage de l'anglais est un atout dans le monde des affaires aujourd'hui. Notez bien, à la fin de la formation, un certificat de participation sera livré aux candidats. La formation débute ce mercredi 15 octobre 2025. Contact 09 94 47 46 78 097 57-04-768. Bonjour Sangwa Patient, directeur du centre Signe. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Barton Boussine, mais au microphone pour la présentation, c'était Benoît Omer Moudekereza. Au revoir.